Chapitre 12. Nye était sous le choc. Robert ne pouvait dire une phrase sans éclater en sanglots, et les enfants surexcités les interrompaient constamment. Patrick finit par comprendre que les octopodes avaient non seulement emmené Ali, mais aussi les aviens, les pastèques-man et le fragment de Cécile. Une heure après le départ du groupe d'exploration, les humains restés dans le musée avaient entendu des bruissements. Ali était allée voir ce qui se passait et avait vu des octopodes approcher. Elle était revenue l'annoncer et tenter de rassurer Benji et les enfants. Quand le premier monstre apparut sur le seuil, tous eurent un mouvement de recul. Une dizaine de créatures entrèrent, la tête colorée par les messages qu'elle leur adressait. Puis un des monstres s'avança et désigna Ali d'un tentacule. Elle comprit qu'il réclamait les pastèques-man et le fragment de Cécile et alla les chercher. Elle les confia à leur chef, qui les prit dans trois de ses appendices et les remit à ses subordonnés. Tous crurent alors que les visiteurs repartiraient, mais deux de ces êtres se dirigèrent vers Tammy et Timmy.
« Non !»
s'écria Ali.
« Vous n'avez pas le droit !»
Les octopodes saisirent les oisillons et les emportèrent, sans faire cas de leur piaillement. Galilée courut vers le monstre qui emmenait Timmy et le martela de ses petits poings. La chose déploya un tentacule, souleva l'enfant et le confia à un de ses congénères. Galilée passa d'un octopode à l'autre avant d'être déposé indemne dans l'angle opposé de la salle. Quand Nye se précipita vers lui pour le réconforter, les extraterrestres s'abstinrent d'intervenir. Trois d'entre eux disparurent dans le couloir avec les aviens, les pastèques-man et le fragment de Cécile. Six étaient restés avec les humains pour leur adresser d'autres messages incompréhensibles. Ali observa longuement les suites de couleurs, puis confia Nikki à son mari et déclara
« Ils veulent que je les accompagne. »
À partir de ce stade, les versions des témoins différaient. Selon Nye, Ali avait cherché une solution de compromis en s'exprimant autant par geste qu'avec la parole. Elle avait librement consenti à suivre les octopodes s'ils s'engageaient à laisser les autres humains tranquilles.
« C'est faux !»
rétorqua Robert.
« Ces monstres l'ont hypnotisé pendant qu'elle fixait leurs motifs colorés. »
Nye confirma deux de ses affirmations. Ali n'avait opposé aucune résistance quand le premier octopode l'avait prise dans ses tentacules et au lieu de hurler de terreur, elle leur avait récité la liste des soins qu'ils devraient apporter à Nikki.
Si elle n'avait pas été dans un état second, nous aurait-elle parlé de couverture et de l'ange ?
Demanda Robert. Benji avait poursuivi les visiteurs pour harceler leur arrière-garde. Robert s'était joint à lui et il les avait suivis jusqu'à la cathédrale. La grille du quatrième tunnel était ouverte. Un octopode les avait repoussés avant de refermer le passage derrière lui. Max était ravi. Cela lui rappelait un tour de monorail qu'il avait fait à l'âge de 10 ans dans un parc d'attractions de Little Rock. La voiture se ruait au-dessus d'une bande métallique sans la toucher. Richard supposait qu'elle était mue par un champ magnétique. Ils s'arrêtèrent 2 minutes plus tard et la porte s'ouvrit sur un quai couleur crème. Ils voyaient au-delà une voûte de 3 mètres.
« Je présume que nous descendons à cet arrêt ?»
demanda Max.
« Oui, »
répondit Richard. Si la voiture ne redémarre pas, j'irai vous rejoindre avec Nicole. Max prit la main d'Éponine et sortit sans enthousiasme. Dès qu'ils se furent éloignés, la porte se referma et le métro repartit.
N'est-ce pas romantique ?
Demanda Max à Éponine.
Nous voilà seuls, enfin seuls.
Il la prit dans ses bras et l'embrassa.
Je voulais te dire que je t'aime. Je ne sais pas où nous sommes, mais je suis heureux de visiter cet endroit avec toi.
Elle gloussa.
À l'orphelinat, j'avais une amie qui rêvait de se retrouver un jour sur une île déserte en compagnie d'un culturiste. Elle m'envierait certainement.
Elle regarda autour d'eux.
Je présume que nous devons franchir ce seuil.
Ouais, sauf si un lapin blanc vient nous inviter à le suivre au fond de son terrier.
Ils entrèrent dans une vaste pièce bleue rectangulaire. Les lieux étaient vides, et on apercevait au-delà qu'un étroit couloir illuminé parallèle à la voie du métro. Ses parois étaient également bleues.
De quel côté ?
Demanda Max.
Il y a deux portes là-bas.
C'est pareil dans la direction opposée. On devrait aller jeter un coup d'œil avant de se décider, non ?
Ce qu'ils découvrirent les déçut. D'autres corridors et d'autres portes.
Merde ! C'est un labyrinthe où nous risquons de nous perdre.
Que suggères-tu ?
De fumer une cigarette et d'analyser la situation.
J'approuve ta proposition sans la moindre réserve,
fit-elle en riant. Il progressait avec prudence. À chaque bifurcation, Max faisait une marque sur la paroi avec le rouge à lèvres d'Éponine. Il avait en outre insisté pour qu'elle prît des notes sur leur ordinateur portable.
Au cas où ses repères disparaîtraient.
Ils avaient au début trouvé cela amusant et regagné deux fois de suite la station de métro pour s'assurer qu'ils ne risquaient pas de se perdre. Une heure plus tard, ils en avaient assez d'errer dans ces passages et ils s'assirent pour partager une autre cigarette.
« À quoi ça sert ?»
demanda Max en soufflant la fumée.
« Soit nous passons un test d'intelligence,
soit il y a ici un lieu que seuls les initiés doivent pouvoir atteindre, »
conclut Éponine.
« Si c'est le cas, il existe certainement un moyen de le trouver. Une sorte de code comme pour les vieux coffres-forts. Deux tours à droite, quatre à gauche et... »
« Il faut organiser méthodiquement nos recherches, »
déclara Max en se levant. Elle l'imita et le dévisagea en fronçant les sourcils.
« Que veux-tu dire exactement ?»«
N'en sais trop rien, mais ça relève du simple bon sens, non »
fit-il en riant. Il marchait depuis près de 4 heures quand ils décidèrent de faire une halte. Ils prenaient un encas lorsqu'ils entreaperçurent quelque chose loin sur leur gauche, à une intersection. Max se leva d'un bond et se mit à courir. Il atteignit l'autre couloir à l'instant où un minuscule véhicule d'une dizaine de centimètres tournait à angle droit dans un passage transversal. Max se précipita et le vit disparaître dans la paroi par une porte miniature.
« Viens !»
cria-t-il à Éponine. Elle le rejoignit devant une voûte de 20 centimètres et ils s'agenouillèrent pour lorgner au-delà. Ils virent une 50aine de créatures à peine plus grosses que des fourmis descendre de l'engin puis se disperser de toutes parts.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
s'exclama Max.
« Regarde ! Regarde bien ! Ce sont des octopodes ? Ils ressemblent à celui que tu m'as décrit ?»«
Bon sang, t'as raison ! Ce sont des bébés !»«
Je ne crois pas. Ils entrent dans ces petites maisons et il y a un canal où circule un bateau. »«
La caméra ! Va chercher la caméra ! C'est une véritable cité lilliputienne !»
Ils s'étaient débarrassés de leur sac à dos pour s'asseoir et manger. Éponine retourna les récupérer pendant que Max observait ce monde en modèle réduit. Un instant plus tard, il entendit un cri et frissonna.
« Pauvre idiot !»
se reprocha-t-il en revenant sur ses pas.
« Tu sais pourtant qu'il ne faut jamais oublier son fusil !»
Il s'immobilisa sitôt après avoir franchi l'intersection. Devant lui se dressaient 5 octopodes. L'un avait refermé 3 de ses tentacules sur Éponine, un autre s'était emparé de leur arme et un troisième du sac à dos dans lequel sa compagne rangeait ses affaires personnelles.
« Aide-moi, Max !»
cria-t-elle.
« Par pitié !»
Il s'avança. Les monstres s'interposèrent. Il avait presque rejoint Éponine quand des tentacules s'enroulèrent autour de lui et collèrent ses bras à sa poitrine. Se débattre eût été inutile. La créature avait une force impensable. Trois octopodes, dont celui qui avait capturé Éponine, s'éloignaient dans le passage.
« Max ! Max ! »
hurla-t-elle. Il était impuissant et cessa bientôt d'entendre ses cris. L'octopode le lâcha 10 minutes plus tard.
« Et maintenant, quels sont vos projets ?»
L'être désigna son sac à dos toujours posé contre le mur. Max s'accroupit, prit de la nourriture et de l'eau, et mangea.
« Je ne peux espérer leur échapper. Mieux vaut attendre la suite. »
Ils restèrent ainsi pendant des heures. Finalement, il s'allongea sur le sol et s'endormit entre les deux monstres. À son éveil, il était seul. Il alla prudemment jusqu'à l'angle et regarda des deux côtés. Il ne vit rien. Après avoir consacré 1 minute à étudier les marques de rouge à lèvres sur le mur et ajouter des gribouillis pour indiquer où se trouvait l'entrée de la cité des mini-octopodes, il retourna vers leur point de départ. Puis il repartit dans les passages déserts et appela Éponine sans obtenir de réponse. Il décida finalement d'aller attendre le prochain métro. 1 heure s'était écoulée et il s'apprêtait à retourner vers la ville miniature quand un sifflement lui annonça l'arrivée d'une voiture qui se dirigeait vers le puits vertical. Il vit Richard et Nicole derrière les vitres.
« Max !»
crièrent-ils à l'unisson avant l'ouverture de la porte. Ils étaient tous deux surexcités.
Nous avons réussi !»
s'exclama Richard en sautant sur le quai.
Une salle démesurée, avec un dôme haut d'une 40 mètres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce refuge se situe sur l'autre berge de la mer cylindrique. Le métro passe sous les flots dans un tunnel transparent.
Il se tut en entendant leur véhicule repartir en sifflant.
Il y a des toilettes, des lits et l'eau courante, ajouta Nicole.
Ainsi que de la nourriture, des fruits et des légumes dont l'aspect est étrange, mais...
« Où est Éponine ?»
demanda alors Nicole.
« Parti !»
répondit Max.
« Parti ?»
répéta Richard.
« Comment ? Où ?»«
Vos amis l'ont enlevé.
Quoi ?»
Max raconta ce qui s'était passé et Richard déclara « Ils ont été plus malins que nous. »«
Disons plutôt que j'ai été stupide. Ils nous ont incités à croire que nous devions résoudre une énigme et... Oh merde !»«
Ne vous adressez pas de reproches, »
dit posément Nicole.
« Vous ne pouviez pas savoir. »«
J'avais un fusil, et savez-vous où il était quand ces saloperies sont arrivées ? Posé contre un mur. »«
Nous avons fait une halte en un lieu similaire, à l'allée, » dit Richard. La seule différence, c'est que les couloirs étaient rouges. Nous les avons explorés pendant 1 heure, puis nous sommes revenus à la station et avons pris la rame suivante.
« Avez-vous recherché Éponine ?»
demanda Nicole. Max hocha la tête. « Nous devrions faire un nouvel essai. » Ils s'engagèrent dans les corridors. À la première intersection, les marques de rouge à lèvres intriguèrent Nicole et Richard. Max leur fournit des explications. « Nous couvririons plus de terrain en nous séparant, » ajouta-t-il. « Rendez-vous dans 1 demi-heure à l'intérieur de la salle située derrière la voûte. D'accord ?» Max était seul depuis un moment quand il atteignit une intersection où il n'y avait aucun point de repère. Intrigué, il essaya de se rappeler s'il avait omis de faire une marque ou s'il n'était pas passé par là. Il était plongé dans ses pensées quand il sentit un contact sur son épaule et sursauta.
« Ce n'est que moi !»
lui dit Richard.
« Vous ne m'avez pas entendu vous parler ?»«
Non !»
fit Max en secouant la tête. « Je n'étais pourtant que 2 couloirs plus loin. Il se produit ici d'étranges phénomènes acoustiques. Nous n'avons plus trouvé de marque et nous nous demandions...
« Merde ! Ces salopards ont effacé nos points de repère. Ils avaient tout prévu depuis le début et nous sommes tombés dans le panneau.
Comment aurait-il pu deviner que...
Je le sais. Ces créatures ont attendu le moment propice pour attirer notre attention. Elles savaient que nous suivrions ce véhicule miniature en oubliant les règles de prudence les plus élémentaires.
Mais il finit par admettre qu'il était sans objet de chercher plus longtemps Éponine à l'intérieur du labyrinthe. Elle n'est plus dans les parages de toute façon. Pendant qu'ils attendaient le métro, Richard et Nicole lui fournirent des détails sur la salle au dôme arc-en-ciel qu'ils avaient visité sur l'autre berge de la mer cylindrique.
« D'accord, »
dit Max, lorsqu'ils eurent terminé.
« Une chose est évidente, même pour un plouc de l'Arkansas. Il doit y avoir un lien entre sa décoration et l'arc-en-ciel qui a distrait l'attention des troupes de Nakamura. Des extraterrestres veulent nous sauver. Et je pense aux constructeurs de ce métro. Mais quel rapport existe-t-il entre eux et les octopodes ?»
Avant l'enlèvement d'Éponine, « je croyais qu'il s'agissait des mêmes individus, » dit Richard. « À présent, je ne sais plus. Il est difficile de ne pas considérer ce rapt comme un acte hostile. »«
Vous leur accordez encore le bénéfice du doute ?»
fit Max en riant.
« Je m'y serais attendu de la part de Nicole, mais pas de quelqu'un que ces monstres ont gardé prisonnier pendant des mois. Ils ont envoyé des petites bestioles explorer vos trous de nez et modifier votre cerveau. »
« Ce n'est pas une certitude. »«
D'accord. Cependant, vous rejetez systématiquement. »
Max s'interrompit en entendant un sifflement désormais familier. La voiture se dirigeait vers l'antre des octopodes.
« Comment se fait-il que le métro aille toujours dans la bonne direction ?»
demanda-t-il sur un ton sarcastique. Patrick avait convaincu Robert et Naï de regagner le musée. Les adultes et les enfants étaient traumatisés. Robert ne trouvait plus le sommeil. Les jumeaux faisaient des cauchemars et s'éveillaient en hurlant. Quand Richard, Nicole et Max revinrent, les réserves de nourriture étaient presque épuisées. Ils parlèrent longuement des deux enlèvements, et la révélation de l'existence du dôme arc-en-ciel ne souleva guère d'enthousiasme. Richard résuma succinctement la situation. « Au moins, y a-t-il des vivres là-bas ?» Ils firent leurs bagages en silence. Patrick et Max portèrent les enfants au bas du puits. Le métro arriva peu après. Sans s'arrêter aux stations intermédiaires, il se rua dans le tunnel sous-marin transparent. Les étranges créatures visibles au-delà des parois, sans doute des biotes, fascinèrent les plus jeunes et rappelèrent à Richard son voyage vers New York, bien des années plus tôt, lorsqu'il était allé secourir Nicole. L'immense salle au plafond hémisphérique était impressionnante. Pendant que Benji, Nikki et les jumeaux s'intéressaient à la nourriture disposée sur une longue table, les adultes allèrent admirer le dôme aux couleurs de l'arc-en-ciel et les alcôves aménagées. Max mesura la salle en enjambée. Elle avait 50 mètres de long sur 40 de large, du bord du quai au renfoncement. Patrick alla lui parler pendant que les autres décidaient de l'attribution des chambres.
« Je suis vraiment désolé pour Éponine, » lui dit-il.
« La disparition d'Ali est en un sens plus grave. Je me demande si Robert et Nicky s'en remettront. »
Ils regardèrent le long tunnel obscur.
« Tu sais, Patrick, j'aimerais me persuader que nos ennuis sont terminés et que le peuple de l'arc-en-ciel va prendre soin de nous. »
Kepler arriva en courant. Il brandissait une sorte de longue carotte verte.
« Vous devriez goûter, Monsieur Puckett, c'est très bon. »
Max prit le légume et y mordit.
« C'est excellent, Kepler, »
fit-il en ébouriffant les cheveux du petit garçon.
« Merci beaucoup. »
L'enfant détala. Max mâchonna lentement l'étrange carotte.
« J'ai toujours pourvu aux besoins de mes poulets et de mes porcs, »
dit-il à Patrick.
« Ils n'ont jamais manqué de rien. »
Il désigna le dôme et la nourriture entassée sur la longue table.
« Mais, en contrepartie, j'allais régulièrement chercher quelques-uns. pour les saigner ou les vendre au marché.